Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur Canal Académie. En avril 2012, l'Académie des sciences a annoncé qu'elle se dotait d'une charte de l'expertise. Une charte, c'est-à-dire un texte court qui, je cite, « fixe les conditions générales et spécifiques que l'Académie juge nécessaires pour exercer véritablement sa mission d'expertise ». Sur des questions de société, en effet, on attend souvent que des experts se prononcent. Et pourtant, il semble bien que de nos jours, la parole des experts soit peu écoutée, voire largement contestée. Sans doute fallait-il que les académiciens qui sont des experts, chacun dans leur discipline, réagissent. Alors pour nous éclairer sur cette question de l'expert, de l'expertise et sur cette charte de l'expertise, trois invités dans notre studio, Catherine Bréchignac, qui est avec Jean-François Bach, l'un des deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Bonjour, madame le secrétaire perpétuel.
Bonjour.
Jean Béchler, philosophe et sociologue de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour, monsieur Béchler.
Bonjour, madame.
Et Gérald Bronner, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, dont l'un des ouvrages, L'Empire des croyances, a été distingué par un prix de l'Académie des sciences morales et politiques et qui fait partie, comme secrétaire scientifique, m'a-t-il dit, d'un groupe interacadémique justement sur ces questions d'expertise. Alors, monsieur Béchler, je crois que c'est à vous qu'il faut demander l'historique un peu de ce groupe interacadémique. Dans quel esprit a-t-il été créé ?
Par pur accident, lors d'une réunion d'un comité nucléaire dont je fais partie en raison de mon incompétence notoire en matière nucléaire, mon confrère Yves Bréchet de l'Académie des sciences s'indignait violemment, il a un tempérament volcanique, du sort qui était réservé aux experts. C'est tout de même scandaleux que... Mais je dis, à l'Académie des sciences morales et politiques, nous organisons lundi matin des entretiens, montons un entretien sur l'expertise. Et puis, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons intitulé « Disqualification des experts ». Gérald Bronner y est intervenu et il expliquera pourquoi, quelle est sa spécialité dans ce domaine. Et, ma foi, le résultat est apparu suffisamment prometteur pour que, finalement, on se pose la question, ne serait-il pas bon de développer, de prolonger cette improvisation, si vous voulez, par un groupe de réflexion sur. Et bien, on en a parlé à Madame Bréchignac, à Monsieur Bach, à je ne sais plus qui encore, puis finalement, nous nous sommes retrouvés. Il y a eu déjà deux réunions. Ça s'appellera peut-être, si ça doit exister, Observatoire interacadémique de l'expertise, où ont été conviés deux membres des sciences, deux membres des sciences morales et politiques, deux de l'Académie de médecine et deux de l'Académie des technologies. Je suggérerais à la prochaine réunion qu'on invite peut-être deux membres de l'Académie d'agriculture parce qu'ils sont aussi directement intéressés. Alors, si cet observatoire, et je crois qu'il naîtra et qu'il vivra, il faut en définir, si vous voulez, l'ambition, c'est-à-dire la limiter. Et étant donné les moyens dont nous disposons, qui sont très exactement nuls, en dehors des bonnes volontés, je crois qu'il faut se concentrer sur une sorte d'expertise, de l'expertise. Quels sont les problèmes que soulève l'expertise et essayer d'organiser d'une manière régulière au niveau académique des colloques, réunions, séminaires, tables rondes, etc., pour faire le tour un peu de toutes les questions, non seulement théoriques, mais également pratiques. Enfin, c'est pour le moment comment je vois les choses. Je suis d'ailleurs chargé de rédiger un petit texte à l'occasion de la prochaine réunion qui se tiendra début juin. Voilà
Madame Bréchignac, merci Monsieur Béchler. Madame Bréchignac, sur ce point que la parole des experts n'est plus entendue et qu'il faut faire quelque chose, que vouliez-vous dire ?
Oui, je voulais effectivement, Jean Béchler a mentionné tout à fait avec beaucoup d'acuité le fait que, en appelant la disqualification des experts, c'est que les experts sont disqualifiés essentiellement par l'opinion publique, par les médias, par toutes les personnes qui au fond parfois demandent aussi de l'expertise. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle nous avons fait une charte de l'expertise. Parce que l'expertise est une de nos missions d'Académie des sciences. Nous avons 5 missions. La mission de promouvoir la science, celle d'encourager la formation et même de s'impliquer fortement, puisque nous avons mis la main à la pâte. Nous avons une mission sur l'international, une sur la communication et une mission sur les avis et expertise. Et nous donnons des avis au gouvernement, aux politiques qui nous les demandent. Et donc, pour cela, il fallait des normes, parce que nous avons eu une histoire, enfin, je ne puis dire histoire, qui nous a fait beaucoup de mal, qui est celle, lorsque nous avons émis un avis sur les OGM il y a une dizaine d'années, l'un de nos confrères s'est fait violemment attaquer pour des histoires de conflits d'intérêts qui, en fait, n'en étaient pas. Et il était très important de définir comment nous allons rendre des expertises. Et quelle était la manière de rendre ces expertises et donc d'avoir un protocole pour dire voilà, vous nous demandez une expertise, et bien voilà comment nous la rendons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait cette charte de l'expertise. La charte de l'expertise dont se dotent d'ailleurs un certain nombre d'institutions, le CNRS en est doté d'une, l'INSERM aussi, et je pense qu'il est très bon que les académies se dotent d'une charte de l'expertise. Par exemple, la National Academy of Sciences aux États-Unis en a aussi une, qui lui permet d'ailleurs de rendre des avis au président de la République. Alors, l'idée de cette charte est la suivante, c'est-à-dire lorsque l'on nous demande un avis, le point fort, c'est celui-là. Lorsqu'on nous demande un avis avec qu'est-ce que c'est qu'un expert, mais ça, il vaut mieux demander à Jean Béchler.
On va lui demander.
Il saura mieux que moi l'exprimer. Donc, lorsque nous avons un avis à rendre, eh bien, la première des choses, c'est de choisir les quelques experts de l'Académie, les quelques membres de l'Académie qui sont experts. Alors, il y en a très peu dans un domaine déterminé, parce que nous ne sommes pas une très grande quantité d'académiciens dans tous les domaines scientifiques.
237 donc, tout de même.
Oui, 237.
Plus les associés étrangers.
Ça couvre effectivement la science, mais quelquefois, si vous voulez un expert sur les OGM, nous en avons peu. Donc, ces experts-là, qui connaissent très bien leur domaine, sont chargés de faire une analyse de la demande et de faire un rapport qui soit un rapport, je dirais, technique, très factuel, en expliquant tous les tenants et aboutissants pour rendre un avis. Et puis ensuite, l'ensemble des académiciens, qui sont plutôt considérés comme des citoyens, qui ne sont pas des experts, mais qui ont un raisonnement fort scientifique et qui sont capables de donner un avis sur cette analyse, donnent un avis, et dans cet avis, il y a un vote. Ça se terminera par un vote sur l'avis en question, qui sera un vote majoritaire avec l'expression de tous les votes minoritaires et bien sûr toutes les règles de déontologie qui sont appliquées dans
le domaine d'expertise. Est-ce là une originalité de l'Académie des sciences de publier aussi les avis minoritaires ?
C'est pas une originalité de l'Académie des sciences, mais c'est vrai que jusqu'ici, nous travaillions, quand nous donnions des avis, plutôt avec un mode consensus. Le mode consensuel est un mode de travail, mais il conduit souvent à quelque chose qui n'est pas très contrasté. Or, parfois, les avis minoritaires peuvent avoir un impact fort. Ce qui est très important, c'est qu'il faut complètement dissocier l'expert et l'avis qui est rendu de ceux qui doivent ensuite l'utiliser pour agir. Et pour agir, il faut avoir un éclairage important et le plus lumineux possible, si je puis dire, de ce que vous avez à observer pour pouvoir agir. Donc, il était très important que l'on puisse donner l'avis sous ses multiples facettes.
On va revenir tout à l'heure avec vous sur le fonctionnement en détail de la méthodologie que vous mettez au point. Avant, je vais demander à Monsieur Brunner, qui est donc sociologue, comment le sociologue voit-il justement cette disqualification des experts ?
D'abord, c'est un fait qui l'intéresse beaucoup, c'est un fait social majeur et d'une certaine façon nouveau. On peut dire que cette disqualification est connexe de la suspicion que certaines productions scientifiques inspirent dans le monde contemporain. Et d'abord, évidemment, cette suspicion, elle vient d'éléments historiques. Je ne veux pas m'appesantir là-dessus parce qu'ils sont bien connus. Quand on voit la façon dont on se représentait la science et la technologie en général au 19e siècle et au début du 20e siècle, la différence est frappante aujourd'hui. Mais entre les deux, il y a eu les deux guerres mondiales, il y a eu la bombe atomique, il y a eu plus récemment l'affaire de la vache folle, du sang contaminé, de l'amiante qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, en tout cas, ont marqué les opinions publiques et ont accentué cette suspicion à l'égard de l'action de l'homme sur la nature en général. Mais tout cela ne serait qu'anecdotique d'une certaine façon, car cette suspicion a toujours plus ou moins existé, notamment concernant les innovations technologiques. Je dirais que ce qui est frappant dans notre contemporanéité, ce sont deux points qui, en tout cas moi, m'ont interpellé et qui mettent en scène, en fait, le risque de façon sociale. Car le risque aujourd'hui n'est plus évalué dans les débats, en tout cas tels que j'ai pu les analyser dans les médias, radio, télévision ou même sur les médias plus hétérodoxes comme Internet. Ce risque n'est plus considéré seulement en fonction de ce que nous dit justement l'expertise scientifique, mais aussi de ce que nous dit le monde militant. Il y a une mise en scène du risque et cette mise en scène, en fait, elle tire beaucoup profit de la façon dont le cerveau fonctionne face au risque. Et ça, c'est un invariant mental. Tout se passe en fait comme si cet invariant mental, cette incapacité que nous avons ou que la logique ordinaire a à juger rationnellement du risque, se conjuguait avec des variables sociales. Je vous en donner juste un ou deux exemples qu'on puisse se comprendre. L'exemple le plus connu des spécialistes de la psychologie cognitive qui s'intéresse à la façon dont nous raisonnons, c'est que nous avons tendance à multiplier par 10 ou 15 des très faibles probabilités. Dès lors, vous me comprenez bien que si on évoque un risque, une incertitude avec un risque qu'on a du mal à chiffrer mais qu'on suppose très faible et avec des coûts exorbitants, eh bien naturellement, il sera facile d'organiser un débat en inspirant une grande crainte à cette opinion publique parce que cette opinion ne saura pas évaluer cette probabilité, elle saura que cette probabilité elle est probablement très faible, mais elle la multipliera naturellement, je vous l'ai dit, par un coefficient assez important, 10 ou 15, disent les spécialistes. Le fait, par exemple, que les coûts sont toujours surestimés par rapport aux bénéfices. Et ça, c'est quelque chose de très facile à évaluer. Prenez n'importe quel débat public, vous verrez que la plupart du temps, les OGM, on les a évoqués, la plupart du temps, le débat se cristallise autour des coûts potentiels et jamais des bénéfices apportés par cette technologie. Or, en toute rationalité, bien entendu, on devrait pouvoir équilibrer les uns par les autres. C'est ce que font les experts, précisément. Mais c'est ce que ne fait pas du tout ce que nous appelons, avec notre collègue Géin, l'idéologie précautionniste. Le deuxième point, pas que le fonctionnement du cerveau, donc qui est actualisé par des variables, c'est l'organisation du marché de l'information. Et là, je vais vous dire quelque chose de très banal, mais on ne peut pas ne pas le dire. Il est évident qu'on voit apparaître cette idéologie de la précaution à la fin des années 90 et notamment exploser dans les années 2000. Eh bien, c'est tout à fait concomitant à l'explosion de la sphère Internet. Hein, songez qu'aujourd'hui, on programme en 2015 environ 2 milliards d'utilisateurs réguliers d'Internet. Eh bien, Internet, c'est avant tout une réorganisation du marché de l'information où tout le monde peut dire quelque chose, tout le monde peut accéder à l'information, ça c'est formidable d'une certaine façon. Mais la question est de savoir quelle hiérarchie s'impose. Est-ce que c'est la connaissance qui l'emporte ou au contraire toutes sortes de croyances précautionnistes?
Monsieur Bechler, partagez-vous ce point de vue et avez-vous quelque chose à ajouter sur cette analyse?
Non, de toute façon, j'aurais scrupule à ajouter quoi que ce soit aux paroles de Gérald Brunner, qui est notre spécialiste sur ces questions qu'il maîtrise parfaitement. Donc, il n'y a rien à ajouter. Il y a une prime, si vous voulez, je dirais, à l'idéologie, pour des raisons qui tiennent, je ne vais pas répéter, à notre psychologie, ou plus exactement à notre équipement, si vous voulez, psychique d'une part et d'autre part à Internet. Alors, c'est une dimension du problème, mais je voudrais mettre en garde contre un risque qui nous guette, je veux dire, en tant que nous nous occupons de ces questions, à savoir qu'il y a une telle prime aux anti-experts, si j'ose m'exprimer ainsi, que l'on risque de donner, d'accorder une confiance excessive aux experts. Il y a un problème de l'expertise en tant que telle, indépendamment de toute considération idéologique. Enfin, pour une raison simple, c'est que les questions sont très complexes, le sont de plus en plus, et le savoir humain n'est pas déjà achevé, à supposer qu'il soit achevable, et que même achevé, il réponde à toutes les questions, ce qui est hautement douteux pour le philosophe. Donc il y a un problème, jusqu'où peut-on faire confiance aux experts et jusqu'où les experts peuvent-ils se dire et s'affirmer compétents? Et cela pose des problèmes considérables à tout le monde, aux citoyens, aux décideurs politiques. Et donc c'est à ce titre que personnellement je m'intéresse à la question, outre le fait que je suis intéressé depuis longtemps par l'irrationalisme. Donc nous avons aussi des intérêts variés dans ce petit groupe et je pense que nous couvrons à peu près le champ des problèmes qui sont soulevés.
Madame Bréchignac.
Oui, je voulais reprendre cet effet de loupe sur les faibles probabilités. Il est tout à fait naturel et extrêmement intéressant de l'étudier parce que, en fait, quand on ne voit pas quelque chose ou quand on ne le ressent pas, on a toujours envie de prendre un appareil pour le voir. Et le cerveau utilise cette loupe pour se rendre compte de ce que ça veut dire qu'une faible probabilité. Ensuite, il oublie qu'il a utilisé une loupe pour le faire. Donc, en fait, il y a vraiment une distinction qu'il faut toujours mettre entre l'émotionnel et le rationnel. Et il est très important, lorsque l'on donne un avis, d'avoir un avis rationnel. Alors, à côté, on peut très bien mettre un avis émotionnel. C'est parce que l'émotion est aussi quelque chose d'extrêmement important pour l'homme. Donc, il ne faut surtout pas en négliger l'un par rapport à l'autre, mais il ne faut pas les mélanger a priori. Il faut surtout les décanter et savoir utiliser parfois son rationnel et parfois son émotionnel. Et c'est la raison pour laquelle on tient à l'Académie des sciences, qui, par certains côtés, défend un peu la rationalité, d'utiliser cette charte pour avoir un protocole qui soit extrêmement clair et dans lequel on essaye d'éviter toute émotion.
Alors avant d'entrer en détail dans les étapes de cette démarche, dans ce protocole, je voudrais tout de même demander à M. Bechler, comment pourrait-on définir un expert ?
Alors j'ai proposé une définition toute simple et toute bête, si vous voulez. C'est un acteur que ses pairs jugent compétent pour répondre à une question qui lui est adressée, bien entendu.
Définition claire, Monsieur Bronner, vous la partagez, je suppose.
Absolument.
Avez-vous une autre définition de l'expertise elle-même ?
Non, l'expertise, c'est une déclinaison de la définition de l'expert. C'est une demande sociale, bien entendu, adressée à quelqu'un dont la compétence est reconnue dans un milieu qui est relativement homogène, on va dire. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter que cela.
Mais dans l'expertise, on a un côté collectif que l'on n'a pas chez l'expert. L'expert est une personne qui est individuelle. Alors que l'expertise, c'est une réponse à une question. Pour une question posée, la question étant une question complexe, nécessite un certain nombre d'experts, et donc cette complexité se retrouve dans l'expertise.
Dans ce groupe que M. Bechler, que vous allez coordonner, que vous espérez fonder, que vous allez coordonner, est-ce que l'on va travailler aussi sur la notion de conflit d'intérêts, pour la définir véritablement ?
Oui, bien sûr.
C'est une nécessité.
C'est une nécessité, mais comment dire, il y a une difficulté qui est liée précisément à la définition de l'expert. Pour donner un avis autorisé, ben, il faut être compétent sur le domaine concerné. Et donc, comment dire, presque inévitablement, les experts dans un certain nombre de domaines sont à la fois juges et parties. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, bon, il y a des chimistes, des biologistes, etc. Et c'est à des chimistes et à des biologistes que l'on demande de faire une expertise. Ce sont tout de même des milieux où, je ne dis pas que tout le monde se connaît, mais presque, donc il n'est pas facile, il ne va pas de soi que l'on puisse introduire une distinction radicale, si vous voulez, sauf à faire appel à des inexperts, c'est-à-dire à des incompétents. Et c'était d'ailleurs le sujet de l'indignation d'Yves Bréchet, qui est à l'origine, je dirais, de cette petite aventure. C'est qu'il dit, mais il faut tout de même s'adresser aux gens qui savent, alors que si on les disqualifie, à qui va-t-on s'adresser ?
Oui,
il y a un problème réel.
Oui, il y a un vrai problème, parce que dès qu'une personne est liée à un laboratoire, M. Bronner, vous devez pouvoir avoir étudié ça aussi sociologiquement, les gens n'y croient plus, ne croit plus à ce qu'il dit.
Ça fait évidemment partie de la suspicion, souvent injuste d'ailleurs, parce que la compétence est généralement sanctionnée par le fait d'être liée au monde industriel. C'est une façon d'évaluer aussi la compétence de quelqu'un. J'aurais dire sur ce point, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais si je ne devais dire qu'une seule chose, je dirais celle-ci. La demande d'indépendance est d'une certaine façon assez démocratiquement naturelle, mais d'un autre côté, il faudrait qu'elle s'adresse à tous les acteurs de ces débats autour de la précaution. Car un certain nombre d'individus qui interpellent l'indépendance des experts ne sont pas du tout indépendants eux-mêmes. Ils ne le sont pas peut-être économiquement dans un premier temps, mais aussi idéologiquement. Parce que généralement, ce sont des réseaux aussi qui sont très bien informés et très bien, je dirais, solidaires entre eux. Et la plupart du temps, les idées qu'ils ont et les condamnations qu'ils ont de telle ou telle innovation technologique viennent d'une idéologie, qu'elle soit écologiste ou autre, mais généralement, ça se tourne autour de là. Donc je pense que cette notion d'indépendance, elle devrait être très élargie dans le débat public.
Madame Bréchignac,
oui, je voulais juste ajouter un mot sur le conflit d'intérêts. On a toujours tendance à penser de manière déformée aux conflits d'intérêts qui sont liés à l'argent. À savoir, tel chercheur est en relation avec telle entreprise et donc il est en conflit d'intérêts. Mais vous avez des tas d'autres conflits d'intérêts. Vous avez des conflits d'intérêts qui sont liés aux croyances, vous avez des conflits d'intérêts qui sont liés au lobbying. Et donc, il faut penser vraiment aux conflits d'intérêts dans leur spectre le plus large. Et à ce titre, j'ai trouvé que la réflexion qui avait été faite au Conseil d'État, et c'est ce texte-là que nous avons retenu pour la définition du conflit d'intérêts dans notre charte, est extrêmement bonne parce qu'elle met en évidence toutes les facettes possibles des conflits d'intérêts.
Alors maintenant, je vous propose, Madame Bréchignac, de peut-être détailler un petit peu les différentes étapes de cette démarche qui figure dans la charte de l'expertise, charte que l'on peut d'ailleurs lire dans son intégralité sur le site de l'Académie des sciences. Vous avez défini 5 étapes. Donc la première, c'est d'abord de savoir qui décide que l'Académie des sciences est ou non compétente pour fournir la réponse demandée. Comment est-ce organisé? Qui va décider?
Eh bien, lorsque l'on nous demande un avis, a-t-on au sein de notre académie déjà des gens qui sont compétents dans ce domaine? Et donc, si oui, si on est capable de faire ça, l'ensemble, l'assemblée plénière de l'académie, qui s'appelle de son nom traditionnel et très ancien le comité secret, mais en fait c'est l'assemblée plénière, dit si elle est compétente ou pas. Ensuite, nous avons le choix des experts. Et ce choix des experts se fait par les pairs, comme l'a dit Jean Béchler, c'est-à-dire que au sein de l'académie, ceux qui sont dont c'est le sujet de recherche principal et qui sont donc compétents, qui ont une connaissance extrêmement approfondie de ce sujet.
Donc des académiciens et des gens extérieurs
non,
aux académies.
Des académiciens d'abord.
D'abord.
Ensuite, ce petit noyau. Alors ça, j'ai vraiment copié cette partie-là sur ce que font les Américains. Ce petit noyau d'académiciens est donc en charge de constituer un groupe d'experts. Et ensuite, eh bien, c'est un peu à l'image de ce que fait Jean Béchler quand il fait un groupe, se dire, voilà, moi je pars de ce groupe-là, ce noyau, et chacun avec son réseau en tant que pair, entre nous, on définit l'ensemble du panel d'experts. Et puis ensuite, donc, chacun motive ses conflits d'intérêts, parce que quelquefois, il est important même de demander l'avis à quelqu'un qui est en conflit d'intérêts. Il vaut mieux demander l'avis à quelqu'un qui est en conflit d'intérêts en sachant qu'il est en conflit d'intérêts, et puis en utilisant cet avis ou en ne l'utilisant pas, sachant combien il est entaché de conflits, plutôt que de se priver d'un avis qui peut, de sa compétence. Donc, une fois que ceci est parfaitement bien écrit et transparent et déroulé à tous, alors on peut avoir le déroulement de l'expertise.
Et donc, cette expertise, vous allez passer une convention avec la partie qui vous l'a demandé, si c'est le gouvernement, par exemple?
Oui,
ça
alors,
va être écrit,
d'abord, tout d'abord, nous ne sommes pas une agence d'expertise. Donc, nous ne donnerons pas d'expertise à des gens qui nous la commandent financièrement. Nous sommes là sous la protection du président de la République, et nous donnons donc des expertises gratuitement au gouvernement.
Alors, on fixe le sujet, on fixe aussi le calendrier, ça peut prendre combien
alors,
de temps?
On fixe le sujet, tout dépend si une expertise doit être faite rapidement ou si on peut prendre un peu plus de temps, et donc à ce moment-là, on donnera exactement ce que nous avons fait, le déroulé, et oui, ça peut prendre un certain temps.
C'est un engagement des académiciens qui vont se réunir plusieurs fois avec
alors,
prononcer. Ils le faisaient déjà, mais là, vous avez mis un
protocole. C'est un engagement de le faire avec une certaine règle parfaitement définie. Alors, ça ne nous empêche pas, de l'autre côté, d'avoir des débats qui sont complètement différents. D'ailleurs, à l'Académie des sciences, on a des débats parfois très animés. On en a eu à propos de l'atome, on en a eu avec Pasteur, à Porto de la génération spontanée, on en a eu avec le climat et on en aura encore. Heureusement,
tant mieux.
Nous sommes là pour débattre.
Je suppose que donc ce comité d'experts, en tout cas, émettra un rapport.
Bien sûr, après
écrit,
nous aurons un
évidemment.
Rapport écrit qui sera mis sur le site de l'Académie, sauf si le gouvernement nous demande, pour des raisons de confidentialité ou de sécurité, de défense, de ne pas le diffuser.
Et est-ce le rôle donc de ces experts qui vont se prononcer de donner un avis tranché ou doivent-ils au contraire donner des avis nuancés selon les sujets, vous allez me dire, mais en l'état actuel des connaissances scientifiques, évidemment.
On donne l'état actuel des connaissances scientifiques et ensuite, au vu de cet état actuel des connaissances scientifiques, on extrapole au niveau de l'avis en disant ce que l'on pense et donc à ce moment-là, il est tranché ou pas tranché en fonction du sujet. Alors ceci est très différent, cette expertise, de ce que nous faisons à côté avec Jean Béchler, qui est donc le côté de la disqualification des experts et de
une réflexion là, voilà.
Donc c'est une réflexion. Là, la charte de l'expertise, je dirais que c'est un peu sur l'acquis, sur ce qu'on sait faire. Ensuite, on est en train de se mettre tous ensemble pour réfléchir à pourquoi cette disqualification des experts. Et c'est pour ça que nous avons absolument besoin de sociologues et puis de définir comment faire un observatoire de l'expertise, au fond, pour essayer d'avancer de manière rationnelle dans ses avis.
De susciter, de solliciter, d'animer éventuellement, enfin, des études plus précises et plus ponctuelles sur tel ou tel point. Par exemple, sur le conflit d'intérêts, pour être franc, j'ignorais, ou j'avais oublié que le Conseil d'État se fût prononcé. Je regardais ça de très près. Alors, à l'Académie des sciences morales et politiques, nous avons l'ancien vice-président du Conseil d'État.
C'est
pratique. Nous devons avoir deux ou trois autres membres ou ex-membres du Conseil d'État. Ce qui me permet de souligner, on peut s'étonner de la présence de l'Académie des sciences morales et politiques.
Non, il y a des experts.
Il y a une section de sociologie, une section d'histoire, enfin bref, des financiers. D'ailleurs, entre nous, puisque nous sommes entre nous et tout ça est parfaitement confidentiel, on m'a déjà demandé, je ne sais pas très bien comment c'est arrivé aux oreilles de ce qui me l'a demandé, si on ne pourrait pas contribuer à une réflexion sur l'expertise financière et plus précisément sur l'éthique de la finance dans le cadre d'un organisme de l'ONU. Alors, nous pouvons fournir. Enfin, nous avons M. Trichet, nous avons M. Delarosière, M. Pébreau.
On a tout ce qu'il faut. Voilà, absolument.
Et donc, il y a de fortes chances que ça se fasse.
Enfin, nous allons clore cette émission. Quelqu'un veut-il encore dire un dernier mot avant que je le signale, alors que tout sera publié sur le site internet de l'Académie des sciences pour s'informer de manière précise. Et quand je dis tout, ça veut dire la liste des experts, les sources auxquelles ils feront référence, leurs liens éventuels avec les parties concernées par l'expertise. Donc la charte de l'expertise, elle est consultable sur le site de l'Académie des sciences pour le moment, www.academie-sciences.fr/activité/rapport/charte. Voilà, donc il y a tout, j'ai tout dit, pour que vous puissiez lire cette charte de l'expertise. Et avant de nous quitter, je voudrais évoquer les derniers ouvrages parus de nos invités. L'ouvrage de Gérald Bronner, « L'Empire des croyances », qui a été couronné d'un prix de l'Académie des sciences morales et politiques, a été publié au PUF, et sans doute celui qui est le plus en rapport avec le sujet, c'est votre titre « L'inquiétant principe de précaution », n'est-ce pas, que vous avez co-édité avec Étienne Géhin, et c'est au PUF. Jean Béchler, vous avez publié de nombreux ouvrages. L'un des derniers, c'est « La perfection » paru chez Hermann dans la collection Philosophie, et votre « Esquisse d'une histoire universelle », elle vient de reparaître chez Fayard, et elle a fait l'objet de 3 émissions sur Canal Académie, ainsi que votre livre « Les matrices culturelles ». Vous l'aviez oublié, je vois
oui,
cela à votre effet, regard.
En effet, oui.
Et celui sous la direction de Catherine Bréchignac avec Philippe Houdy et Marcel Lamani traite des nanosciences, particulièrement des nanomatériaux et de la nanochimie. J'ai cru comprendre que c'était votre spécialité, Madame Bréchignac. Il est paru chez Belin. Et votre discours sous la coupole pour une des rentrées des académies, disponible aussi sur Canal Académie, s'intitulait « Pourquoi le mythe nano ?» Merci à vous trois et à une prochaine fois, car il y a certainement beaucoup d'autres occasions pour évoquer ces sujets.